Okay, let's begin our...
Heather prend la parole. Commençons notre séance. Je sais que Fadi n'est pas encore arrivé, mais nous pouvons lui demander de parler un peu plus tard. Nous avons quelques points liés à l'ordre du jour que nous avons préparé avant de cette réunion, dans notre réunion de préparation que nous avons eue juste avant cette réunion. Nous avons reçu une mise à jour. Nous voulions recevoir des informations par rapport à la participation à la réunion de Montevideo et ce qui s'est passé après cette réunion, ainsi que par rapport aux efforts d'internationalisation de l'ICANN. Quand il arrivera plus tard, on pourra demander donc à Fadi de nous informer brièvement ce qui s'est passé donc par rapport à ces questions. En plus de ce qui a été informé hier, on sait que demain matin il y aura une réunion par rapport à cette question pour la préparation à la réunion du Brésil. Entre-temps, nous avons identifié d'autres points, certains d'eux liés au nouveau GTLD, ainsi que un point concernant l'équipe de révision de la transparence et de la responsabilité. On voulait savoir le point de vue, connaître le point de vue du conseil d'administration par rapport à cette révision. Et nous avons un point aussi concernant les GTLD géographiques et certains problèmes liés à l'utilisation des droits, à la protection des droits dans le bureau central des marques. En ce qui concerne les questions liées au nouveau GTLD, nous avons eu une réunion avec le comité des nouveaux GTLD. Et nous savons que les membres du conseil d'administration peuvent répondre à un certain nombre de ces questions, mais pour nous, c'est l'occasion de vous montrer quels sont les sujets qui intéressent les membres du GAC. Et bien entendu, les réponses pourront être reçues plus tard si ce n'est pas possible d'y répondre pendant cette séance. Nous avons une série de points, de thèmes à aborder, certains points qui n'ont pas encore été abordés par le GAC ou discutés au sein du GAC. Je vais vous signaler quand est-ce qu'il s'agit de ces points nouveaux pour que nos collègues et les membres de la communauté puissent être au courant de cela. À ma droite, Steve Crocker, président du conseil d'administration de l'ICANN. Merci aux autres membres du conseil d'administration d'être venus échanger avec nous. Vous savez que nous apprécions énormément ces échanges avec le conseil d'administration et nous apprécions également la volonté des membres du conseil d'administration de venir dialoguer avec nous. Bienvenue. Steve Crocker prend la parole. Merci, Heather. C'est toujours un plaisir pour moi que d'être ici pour partager des informations sur la situation actuelle. On a eu une longue journée, aussi bien nous que vous. Dans notre cas, nous avons participé à d'autres séances avec différents groupes. Et au bout de la journée, vous avez passé votre journée dans cette salle aussi. Nous avons passé notre journée assis dans la salle Libertador. Et il y a cette question de protocole de savoir qui déménage dans une autre salle. Et c'est nous qui avons gagné. Nous avons gagné l'opportunité de pouvoir marcher un petit peu pour venir dans cette salle. Il y a certains points auxquels je pourrais répondre par rapport aux points que vous avez évoqués. Et merci, Heather prend la parole. Je vais donc aborder ces questions dans l'ordre où elles étaient évoquées dans la séance de préparation. Je vais commencer par des points ou des questions liées au GTLD ou aux candidatures encore à l'étude. Le Pérou. Pourriez-vous commencer avec votre question? Le Pérou prend la parole. Bonjour. au nom de l'Argentine aussi et de mon pays, nous voudrions savoir quand est-ce que nous aurons une décision finale sur la question de Point Amazon. Steve Crocker prend la parole. Je suis content qu'on commence par les questions faciles. Chris lève la main, mais permettez-moi de commencer par vous alors. Et si je dis quelque chose qui n'est pas bien, Chris va me corriger. Chérine Chalabi prend la parole. Nous avons dit que nous avions recevoir un avis juridique international avant de prendre une décision. Et nous sommes encore, nous attendons encore cet avis juridique. Cela fait partie de notre mission au sein avec le GAC. Tant que nous n'aurons pas eu cet avis juridique, je ne suis pas en mesure de vous donner une date précise. Heather prend la parole. Merci pour cette question, pour cette réponse, pardon, Charine. La Belgique a une question. La Belgique prend la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Pendant la réunion conjointe avec l'ONGPC, des allusions respectueuses ont été faites au fait que la ville de Point Espa allait recevoir de l'argent en échange de l'enregistrement de ce nom de domaine. La Belgique est extrêmement insatisfaite avec cette déclaration parce qu'elle n'est pas du tout correcte. Si vous analysez le contrat avec soin, il est clair que les deux parties se mettent d'accord pour attribuer une toute petite partie des bénéfices de ce registre à la communauté de la localité Point Spa. Il n'y a pas d'argent destiné à la ville de Point Spa. Nous voulons aussi mettre l'accent sur le fait que, à la demande de la ville de Spa, le contrat a été envoyé au GAC, et cela pour assurer une transparence totale. Merci, Madame la Présidente. Heather prend la parole. Merci, la Belgique, pour cette déclaration. Est-ce que le Portugal a quelque chose à ajouter par rapport à cela? Portugal prend la parole. Je vais parler en portugais. Je ne sais pas si nos collègues ont compris ce que la Belgique vient de dire par rapport à Point Spa. S'ils ont bien compris ce qui a été dit hier, pendant la réunion que nous avons eue avec le comité, il y a eu une relation implicite entre une allusion à une relation qui aurait pu s'établir entre des candidats à un nom de domaine et un gouvernement. Cela n'a pas tenu compte de l'opinion des gouvernements. On l'a dit et personne n'a réagi quand on a fait cette allusion. Et on pensait que les gouvernements attendaient donc ces candidatures à résoudre ces candidatures et on a bien compris que ces questions concernaient l'intérêt public et les communautés. Pour que cela ne fasse pas boule de neige, nous aimerions que cette relation que l'on fait entre l'argent des candidats et les GTL et les gouvernements, ce rapport d'argent entre les candidats et la communauté ne soit pas établie parce que cela va à l'encontre du respect vis-à-vis des gouvernements. Heather prend la parole. On a d'autres points par rapport au nouveau GTLD. Nous avons d'autres collègues qui voudraient s'exprimer. Je vais donc passer la parole aux autres collègues. La question des TLD fermé versus les TLD fermés. Les GTLD à usage exclusif ou à usage restreint, les Pays-Bas. Merci Heather. Pays-Bas prennent la parole. Nous avons quelques commentaires et quelques inquiétudes par rapport à ce point au sein du GAC. Hier, on en a parlé. On a parlé justement des registres à accès restreint. Nous avons trouvé que c'était très encourageant que le NGPC étudie la liste avec les sauvegardes et on a été assez satisfait de savoir que la plupart des registres allaient travailler de façon ouverte. Or, nous n'avons pas eu une liste exhaustive. Je veux dire qu'il peut y avoir plus de chaînes qui ne sont pas incluses et qui pourraient fonctionner de façon restreinte ou fermée. Donc, nous voudrions demander d'étendre cette question à l'ensemble des GTLD. Deuxièmement, nous sommes bien sûr intéressés à parler de cette question. Avec les registres qui disent qu'ils vont fonctionner de façon fermée et qui ne souhaitent pas fonctionner de façon ouverte. Et un autre point, voilà, je pense que c'est tout. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'une inquiétude des Pays-Bas, mais la plupart des pays européens partagent cette même inquiétude et je suppose que c'est une inquiétude partagée par d'autres collègues du GAC. Heather reprend la parole. Merci. Très bien. Le NGPC semble prendre note de votre commentaire. Chris, pouvez-vous y répondre? Chris prend la parole. Merci. Il n'y a pas besoin d'envoyer cette lettre aux autres candidats. Je vais vous expliquer pourquoi on ne l'a pas fait. Le processus est le suivant. Si l'on passe un contrat formel, ce contrat est signé conformément à la spécification 11, c'est-à-dire que l'opérateur de registre va fonctionner de façon ouverte. Et si le contrat de registre est préparé à le signer, c'est qu'il va fonctionner de façon ouverte. Si il y a des registres qui ne sont pas là, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas signé la spécification 11. Donc je vous assure que les obligations contractuelles contenues dans les spécifications sont les obligations définitives et constituent le texte final du contrat. Je vais répondre aux autres points après. Heather, la Suisse, prend la parole. Une réaction rapide. Merci pour cette précision. J'ai ici le point concernant les noms en langue non anglaise. Je me demande si, par rapport à cela, comment pouvons-nous nous assurer que ces noms seront ajoutés à la liste ou qu'on n'oublie pas d'ajouter ces noms à la liste en tant que générique fermé et dans une langue qui ne soit pas l'anglais. Nous voulons nous assurer ou avoir des garanties que ces noms génériques à usage restreint puissent être aussi identifiés. Chris prend la parole. Je n'ai pas bien compris pourquoi la langue du nom de domaine générique soit pertinente. Le contrat doit être signé en respectant la spécification 11. Et cette spécification dit que l'opérateur de registre ne fera pas un usage exclusif de ce GTLD, mais la langue dans laquelle celui-ci sera utilisé n'est pas spécifiée. Si la candidature souhaite utiliser le TLD à usage restreint, à ce moment-là, l'opérateur de registre doit présenter une demande de modification. tous les autres contrats devront suivre la même démarche, le même processus. Et cela va rendre les choses un peu plus lentes. Heather prend la parole. Merci. On va passer au point suivant par rapport auquel nous avons eu un débat. Et ce thème concerne la protection des enfants et les sauvegardes. Les sauvegardes contenues dans notre avis. Plusieurs collègues ont soulevé cette question. Royaume-Uni, souhaitez-vous prendre la parole? Royaume-Uni prend la parole. Merci, Heather. Bienvenue, je souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration. Le GAC souligne ses attentes par rapport au fait que les CAN puissent assurer que tous les GTLD, notamment ceux qui sont liés ou adressés aux enfants, y compris ceux qui ont été identifiés dans la liste non exhaustive qui a été inclus dans l'avis du GAC de Beijing, puisse inclure des sauvegardes pour protéger les enfants et leurs droits. Dans ce cadre, je souhaite attirer votre attention sur une déclaration écrite qui a été présentée au Parlement européen sur la protection des droits et leurs droits, protection des enfants et leurs droits, pardon, dans le cadre du point Children et leur inclusion dans le système de noms de domaine. J'ai quelques éléments à souligner. Ils mettent l'accent sur le fait que dans l'espace de nom de domaine où l'accès des enfants à la connaissance sur Internet peut avoir un impact positif auprès des enfants. Une gouvernance appropriée de cet espace en ligne est fondamentale pour réduire les risques et pour assurer que les droits des enfants ne soient pas menacés. Une troisième déclaration dit que les gouvernements doivent faire impliquer les organisations chargées de protéger les droits des enfants afin d'assurer que les droits et les bénéfices des enfants sont assurés et pour les protéger en ligne conformément à la Convention des États-Unis sur des Nations Unies sur les droits des enfants. J'aimerais attirer votre attention sur cette déclaration du Parlement européen qui a été une déclaration très soutenue par tous les pays. Donc le Royaume-Uni demande au conseil d'administration de prendre note de cette déclaration et notamment la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et demande à l'ICANN de faire une déclaration publique de ses engagements afin de garantir que l'expansion de noms de domaine à travers cette série de nouveaux GTLD et dans deux séries futures, donc que l'on puisse assurer que les droits des enfants soient sauvegardés. J'espère donc que le conseil d'administration puisse faire une réflexion sur cette volonté de protéger les droits des enfants. J'espère pouvoir rentrer chez moi et dire à mon gouvernement que tout va bien et qu'il n'y aura pas de menace aux droits des enfants et que ces enfants, ou les données concernant ces enfants seront protégées. C'est une question qui a été analysée par le GAC dans d'autres avis et le moment est arrivé d'avoir une manifestation d'engagement par rapport à cette question. Heather prend la parole. Merci, Royaume-Uni. C'est un autre point par rapport auquel il y a eu des commentaires de plusieurs collègues, car nous croyons qu'il s'agit d'un point très important, même s'il n'existe pas un accord au sein du GAC sur quel est le chemin à suivre. Je peux cependant dire que ces questions liées à la protection des enfants et des droits des enfants, nous les prenons au sérieux. Est-ce que quelqu'un souhaite faire des commentaires par rapport à cette question avant d'avancer? Max Silver, du conseil d'administration. Merci, Madame la Présidente. Au Royaume-Uni et moi-même, nous avons participé à la réunion avec le NGPC et nous avons les éléments nécessaires pour pouvoir réagir par rapport à cette question et cette question sera prise en compte. Actuellement, l'inquiétude qui existe, c'est que l'Internet est lié au fait que l'Internet est un endroit qui peut s'avérer bénéfique pour les enfants ou positif pour les enfants, mais qui peut s'avérer en même temps dangereux. Il nous faut donc avoir des garanties pour pouvoir atténuer les risques actuels au lieu de les augmenter ou de les accroître. Bien entendu, nous ne pourrons pas le faire de façon unilatérale. Il nous faut un effort collaboratif pour pouvoir atténuer ces risques. Je crois qu'il y a une différence par rapport à la façon dont nous pouvons envisager cela au niveau du conseil d'administration. Heather prend la parole. Merci, Mike, pour cette réponse. Poursuivre avec la question des nouveaux GTLD, la Commission européenne souhaiterait soulever un certain nombre de points et peut-être que d'autres collègues voudront appuyer cette ou faire des commentaires. On va parler donc de la protection des OIG, de la Croix-Rouge. Il y a des points concernant les domaines de premier niveau et les opérations sécurisées, ainsi que des points concernant les objections de la communauté. Si j'ai oublié quelque chose, je m'en excuse. On va vous laisser parler. Commission européenne prend la parole. Merci. Bonjour, membres du conseil d'administration. Je vais faire référence à point Doctor et à d'autres candidatures liées à la sécurité. Je vais laisser aux autres membres de l'Union de la Commission européenne de faire référence aux autres points soulevés. En ce qui concerne point Doctor, la Commission, dans une interaction avec le conseil d'administration, a constaté que ce GTLD peut être considéré comme étant dans la catégorie des marchés réglementés avec d'autres sauvegardes concernant point dentist, par exemple. Cela peut créer des confusions auprès des consommateurs parce qu'en anglais, il est clair que point doctor fait référence à quelqu'un qui a un médecin et non pas à un titre universitaire. C'est pour ça qu'il peut y avoir un point PhD. Mais comme il y a 3 candidatures de point doctor, 2 candidatures seront utilisées par des gens liés au domaine de la santé, alors qu'une autre candidature sera utilisée de façon ouverte. La Commission dit que point médecin, la traduction en français de point doctor, est liée aussi aux gens, aux médecins, aux gens qui pratiquent la médecine et avec est liée au secteur université. Il faut donc voir comment on va gérer ces candidatures. Nous croyons que le programme des GTLD de l'ICANN doit essayer d'améliorer le niveau de protection et la confiance vis-à-vis des GTLD. C'est pour ça que je prends la responsabilité sociale et communautaire dans ce sens, parce qu'on comprend, on sait que les domaines tels que point safe ou point security peuvent être alloués à des candidats seulement sur la base du prix qu'ils vont payer dans une enchère. Certains candidats de ces domaines ont manifesté leur souhait d'être considérés comme des domaines restreints ou à usage exclusif, et ces candidats ne devront pas adopter des protections de sécurité, ne pourront pas permettre à d'autres compagnies d'opérer ces non-domaines. C'est pour ça que nous recommandons au conseil d'administration de l'ICANN, dans l'intérêt de promouvoir des solutions innovatrices dans le domaine de la cybersécurité, de ne pas permettre la délégation de ces domaines lorsqu'ils sont guidés par des intérêts commerciaux.
Sur le point suivant, donc, nous allons maintenant aborder le prochain point. Le Danemark prend la parole. Plusieurs membres de l'Union européenne voudraient dire leur reconnaissance pour ce dialogue actuel sur la protection aux OIG. Nous nous sommes entretenus avec le NGPC, avec la coalition des OIG et avec la présidence et les vice-présidences du GAC pour un mécanisme pragmatique de protection et des sigles des OIG. Je sais que des progrès ont été faits à cet égard et que l'on est parvenu à un accord sur un mécanisme pragmatique et permanent qui enverrait des notifications aux OIG. Nous espérons qu'il y aura une procédure de résolution de litige. Nous voudrions avoir davantage d'informations du conseil d'administration à cet égard. Et de prendre la parole, merci le Danemark. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait faire un commentaire sur ce thème, sur ce point? Un autre thème concerne le comité olympique, comité international olympique et la Croix-Rouge. Quelqu'un voudrait parler à propos de cela? La Suisse. Voilà, la Suisse prend la parole. Bonjour à tous. Bon, il semble bien que nous avons tous des portables semblables. J'en ai pris un par mégarde. Je voulais moi aussi vous remercier de l'occasion d'avoir eu cet échange. Et je voulais préciser devant vous, en ce qui concerne le mouvement des protections pour le Comité international olympique, le Croissant Rouge et la Croix-Rouge, que nous croyons qu'il est indispensable que les structures nationales de ces mouvements soient aussi protégées contre les abus. Et par exemple, que la catastrophe de Philippines et les activités de collecte de fonds puissent montrer au niveau national, comme un exemple, l'importance de cette protection pour que tout le monde puisse savoir qu'ils font des apports de contributions sur des sites sûrs. En septembre 2011, une lettre de la présidence du GAC à la présidence de la GNSO a présenté une liste de ces mouvements qui a été annexée et l'on a parlé de la protection au niveau national. Je voudrais demander au conseil d'administration s'il y a une confirmation pour que la protection de la Croix-Rouge et du mouvement de Croissant-Rouge pour savoir s'ils ont une protection au niveau national, si on peut se servir d'un mécanisme comme celui que l'on a vu et qui a été créé pour la liste des OIG. Est-ce que ce mécanisme peut être utilisé pour les structures nationales de la Croix-Rouge et du mouvement de du Croissant-Rouge? Heather prend la parole. Merci de la question. Je veux souligner qu'il s'agit d'un autre thème dont nous n'avons pas débattu dans le cadre du GAG, mais vous devez savoir que nous voulons bien sûr continuer, nous voulons bien sûr l'aborder parce que bon nombre des membres du GAG ont reçu des documents à cet égard. Nous allons continuer à en débattre dans le cadre du GAG. S'il faut que nous présentions nos avis sur cette question. Nous allons donc continuer sur la liste des thèmes. Est-ce qu'il y a des commentaires supplémentaires sur les GTLD et les demandes, les candidatures communautaires? La Suisse, par exemple. Oui, il y a un autre thème, Madame la Présidente. Un autre thème, beaucoup d'entre nous, des représentants du GAC, nous avons accueilli certains candidats parce que un bon nombre d'entre eux estiment qu'il y a un problème avec le mécanisme de résolution des litiges qui concerne la confusion de chaînes de caractères ou de communautés ou des droits juridiques. Les candidats nous ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec les procédures ou les résultats de ces mécanismes et que lorsqu'ils cherchent une solution à cela, les fournisseurs de services disent qu'ils ne seront pas responsables de la révision ou de l'appel. Et ils disent aussi que l'ICANN leur avait dit que l'ICANN n'était pas responsable de la révision ou de l'appel. À leur avis, cela concerne la due diligence ou le processus du. Et c'est toujours une responsabilité du système. C'est ce qui nous mène à l'approche du thème, aborder le thème. Suivant l'hypothèse qu'il n'y a pas de mécanisme pour interjeter un appel, est-elle compatible avec l'état de droit? Comment fonctionnent-ils ces procédures? Nous voulions attirer votre attention sur ce point parce que si ces soucis deviennent de plus en plus nombreux, cela peut mettre présupposer un risque pour le programme des nouveaux GTLD. Moi, je voudrais écouter vos commentaires. J'ai entendu plusieurs expressions de soucis ou de préoccupations à cet égard. Voilà pourquoi je soulève la question. Merci. Heather prend la parole. Merci, la Suisse. C'est Chelim Chalabi qui prend la parole. Dans différents forats, On a fait savoir qu'il y a des déterminations d'experts. Certains membres de la communauté estiment que cela est incohérent. Il y a aussi certains candidats qui parlent de la disponibilité d'un certain type de procédure de révision ou une autre ressource disponible pour évaluer ce type d'incohérence. Nous discutons de ce sujet au sein du comité des nouveaux GTLD. Nous allons continuer à traiter la question. Si vous avez des idées à cet égard et que vous voulez la mentionner, nous pourrons tenir compte de ce qui sera dit. Heather reprend la parole. Merci de cette réponse. Bien, je crois que nous devons aborder le prochain point. Je vais donner la parole au NEPAD et à la Commission africaine pour qu'ils parlent de nouveaux GTLD géographiques et de l'accès aux mécanismes de protection des risques pour certains termes. La Commission africaine prend la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bon après-midi à tous les membres du Conseil d'administration. Quant au centre de, au registre du Centre de protection des marques commerciales, je sais qu'il y a eu des changements certains pendant ces derniers jours. Je crois qu'il n'y a pas dans notre région des efforts pour augmenter la sensibilisation ou la prise de conscience sur ce mécanisme. Et par rapport au mécanisme de protection des droits, il y a une clause, la clause 4.5, où l'on parle des unités constitutives. L'unité constitutive des droits de propriété intellectuelle doivent demander au nouveau GTLD de leur présenter une consultation avant de prendre une décision. Un exemple de cela, c'est celui de notre région. Même si nous savons que le centre de protection et d'information sur les marques doit jouer un rôle de sécurité pour protéger surtout toutes les marques commerciales, non seulement les marques nationales, mais aussi les marques internationales qui ont des prétentions allant au-delà de leur juridiction. Il me semble que cela présuppose un enjeu, un défi pour les marques déposées ou pas, par rapport à ce qui correspond à un nom de domaine particulier géographique, par exemple point Cape Town. Alors si le Bureau de protection des marques commerciales n'est pas là, ce sera un obstacle pour nous. Et ce n'est pas seulement pour nous, ce n'est pas seulement pour l'Union africaine, mais pour tous ceux qui ont un rapport avec les GTLD géographiques. Il se peut qu'il n'y ait pas d'ambition de protéger toutes les marques dans tous les aspects du GTLD. Il s'agit peut-être seulement de protéger le nom de domaine ou les droits de protection intellectuelle dans une région géographique prédéterminée ou dans l'espace des GTLD géographiques, là où les marques ont un caractère distinctif particulier. Nous allons donc en discuter avec le groupe des GTLD géographiques demain, mais nous voulons soulever cette question devant le conseil d'administration aujourd'hui parce que nous demandons une souplesse par rapport à tous ceux qui sont en rapport avec les domaines de premier niveau géographique et toute approche localisée pourra être vraiment très utile, surtout en ce qui concerne la participation de l'Afrique. Et en particulier sur ce que nous avons vu comme une introduction à cette nouvelle série des nouveaux GTLD. C'est très important pour nous, pour le processus de lancement, ainsi que pour encourager à la communauté de noms de domaine qui participe, par exemple, à des petites entreprises, à des entreprises moyennes, ainsi que pour faciliter la présentation et la validation des marques déposées ou non déposées. Parce que le Centre de protection et d'information sur les marques commerciales ne s'occupe pas de savoir quelles sont les marques déposées ou pas. Et nous en avons beaucoup dans notre région. Voilà donc notre approche. C'est tout simplement pour qu'il soit considéré et accepté. Nous ne voulons pas nous mettre en concurrence avec le Bureau de protection des marques. Nous allons présenter la question demain pour un débat, mais c'est une bonne idée, je pense, de présenter la question au conseil d'administration ici dans le cadre du GAC. Heather prend la parole. Merci beaucoup, Alice, de nous avoir fait remarquer ce thème. Je ne sais pas s'il va y avoir une réponse immédiate, Mais la question a été au moins soulevée. Je pense que nous allons en parler demain dans le GAC. Le représentant de NEPAD, vous voudriez enfin dire quelque chose à ce sujet? Oui, NEPAD prend la parole. Merci Heather et merci au conseil d'administration d'être venu enfin partager tout cela avec nous. Je voudrais signaler à votre attention un thème qui a été qui est lié à ce qu'a dit mon collègue de la africaine, ma collègue africaine dans le continent africain. Il y a eu des soucis liés aux enregistrements de noms et d'entités africaines par des entités non africaines. Et pour dépasser cette question, pour surmonter, trouver une solution à cela dans le contexte de points Afrique, l'Union africaine a travaillé avec les candidats au registre. L'Union africaine a donc essayé de demander au gouvernement africain de réserver les noms des lieux géographiques et d'autres points du patrimoine culturel national pour qu'ils puissent être protégés au moyen des listes de réservation des noms. C'est quelque chose que nous voulons signaler. Nous n'attendons pas une réponse du conseil d'administration. Nous voulons tout simplement soulever la question pour dire que nous nous inquiétons à ce propos et que nous travaillons sur des mécanismes pour protéger ces intérêts. Heather Ryden prend la parole. Merci beaucoup, le NEPAD. J'ai le Gabon qui demande de la parole. Je ne vois pas très bien. Merci beaucoup. Je représente la commission des communications du Kenya et je parle, le commentaire est lié à la suggestion et le représentant du représentant de l'Union africaine. Nous voudrions bien qu'il y ait un certain niveau de flexibilité au niveau national quant à la protection de la propriété intellectuelle dans les pays en développement. C'est Heather qui prend la parole. Merci beaucoup, le Kenya. Nous allons maintenant aborder le prochain thème. Je vais demander au Singapour de poser une question ou de présenter un commentaire concernant le travail de l'équipe de révision de la responsabilité de la transparence. Le Singapour. Merci, Madame la Présidente. Nous savons que la TRT2 a présenté une version préliminaire de ses recommandations et que le GAC a abordé la discussion de trois domaines. D'une part, augmenter la transparence des activités concernant le GAC. Ensuite, l'engagement de certaines ressources des gouvernements au GAC et augmenter l'intervention précoce dans les processus de développement de politique. Nous savons que certaines recommandations ont déjà été mises en œuvre. Quelle est la réaction initiale du conseil d'administration par rapport à ces recommandations? Nous voudrions savoir quelque chose à ce propos pour avoir une idée de l'avis du conseil d'administration sur la mise en œuvre des recommandations de la TRT2. Merci. Steve Crocker prend la parole. Heather et moi, nous avons été vraiment fortement impliqués dans les processus de la TRT2. Je ne dirai rien de spécifique par rapport aux recommandations, mais sur l'état de la situation par rapport aux recommandations et ce que le conseil d'administration compte faire à cet égard. L'équipe de révision vise à la complétion du rapport et à sa présentation à la fin de cette année. Le projet, la version préliminaire du rapport a déjà été diffusée, il y a eu des commentaires. Nous avons été très prudents. Je vais parler à la première personne, au singulier. C'est moi qui ai été vraiment très prudent. Et j'ai été très conscient aussi du fait qu'il y a eu un travail très, très grand qui a été fait pour les recommandations. Nous examinerons chacune de ces recommandations pour savoir quel est le processus nécessaire pour les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces processus. et pour prendre les décisions nécessaires pour ces processus de mise en œuvre. Nous devons le faire dans une période de 6 mois. Deux points positifs sur cela, j'ai demandé à l'équipe de soutien, au conseil d'administration et au reste du personnel d'analyser ces recommandations dès maintenant et de commencer le processus pour que nous puissions être en avance. Le président Brian Cute, le président de l'équipe de révision, a demandé aussi à avoir les informations préliminaires pour la possibilité de mise en œuvre pour pouvoir ajuster les recommandations afin que elle soit plus, enfin, qu'il y ait plus de possibilités de l'appliquer. Je n'ai pas été très précis dans certains détails, mais je veux que vous sachiez que nous prenons le processus de façon extrêmement sérieuse en ce moment. Notre travail commence à, disons, s'accélérer et nous cherchons à travailler de façon approfondie, à façon approfondie sur ces recommandations, de façon à pouvoir agir en temps voulu. Heather prend la parole. Est-ce que quelqu'un voudrait faire d'autres commentaires sur le travail de la TRT? Mike Silver prend la parole. Je vais être bref. L'un des thèmes soulevés dans l'équipe de la TRT 2, c'est le texte de certaines recommandations qui semblent recommander au conseil d'administration de réaliser certaines actions par rapport au GAC. Et nous leur avons demandé de reconsidérer ce texte. Il se peut que ce ne soit pas approprié de dire que le conseil d'administration réalise des actions par rapport au GAC. Parfois, la recommandation peut être pertinente, mais le processus... Enfin, quel est exactement le processus pour les recommandations? Ce n'est pas quelque chose que nous, en tant que membres du conseil d'administration, puissions imposer au GAC. Si quelque chose n'est pas fait, si c'est le personnel qui a pris une mesure, nous pouvons dire au personnel de réaliser une action déterminée. Mais nous ne pouvons pas le dire au GAC. Vous êtes un organisme indépendant. Heather prend la parole pour la CDL Iran. L'Iran prend la parole. Oui, Madame la Présidente, merci aux membres du Conseil d'administration. Je leur souhaite la bienvenue, Madame la Présidente, par rapport à cette même question. Comme je l'ai dit ce matin, il faut que la rédaction, le texte de ces recommandations soit révisé, en particulier par rapport à ce que j'ai dit ce matin. L'équipe de révision peut recommander quelque chose au Conseil d'administration, etc., 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 mais faire une référence au fait qu'ils prétendent avoir un code de conduite pour le GAC, ce n'est pas quelque chose de pertinent. Nous, représentants des gouvernements, nous n'avons pas besoin d'instructions particulières de qui que ce soit sur la manière de nous comporter dans une réunion, quelle qu'elle soit. Nous avons des instructions de nos propres gouvernements et le commentaire devrait peut-être se limiter à la personne en elle-même, mais pas aux représentants des gouvernements. Alors, à mon avis, ce texte doit être modifié. Merci beaucoup. Heather prend la parole. Merci beaucoup, l'Iran. Je crois que nous pouvons continuer à aller de l'avant. Le dernier point de l'ordre du jour concernait le début d'un échange avec Fadi sur la déclaration de Montevideo. Cependant, nous avons déjà reçu différentes informations à cet égard dans la semaine. Il y a eu une réunion hier et il y en aura une autre demain, ce qui permettra à la communauté de contribuer au processus lié à la réunion qui se fera au Brésil. Donc, au lieu de demander à Fadi de nous l'expliquer, nous avons des questions peut-être à lui poser. Assurément, d'autres membres du conseil d'administration et d'autres collègues auront d'autres questions ou d'autres remarques à ajouter. L'Iran avait deux questions liées à la question du forum IGF et à la sélection des membres du panel. Et puis, il y a la Namibie qui voulait faire un commentaire sur l'internationalisation de l'ICAN et ce processus. L'Iran peut commencer. Donc, l'Iran prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Oui. J'ai entendu parler de cette déclaration. Et bien sûr, nous aurons davantage d'informations à cet égard demain. Mais j'ai pensé que ce serait pertinent pour les membres du conseil d'administration, ou au moins pour Monsieur Hadi Shehadeh, de nous informer, à nous tous, les membres du GAC, de ce qui s'est passé, quelles ont été les décisions prises et quelles seront les prochaines étapes ou les actions proposées par l'ICANN. Je ne pense pas que l'ICANN puisse internationaliser l'ICANN. Cela sera fait par les parties prenantes. Ce n'est pas un système d'autorégulation. Un autre aspect, lors des derniers IGF, l'échange a été vraiment très intense et une grande admiration pour les débats entrepris dans le cadre de l'IFF. Mais je voudrais savoir si les résultats de l'IGF ont fait l'objet d'un engagement de la part du conseil de l'ICANN, jusqu'à quel point ils ont été enfin réalisés et où. J'ai entendu parler aussi de la préparation pour la réunion de l'ICANN, du Brésil. Je l'ai vu aussi sur le site web, mais je voudrais savoir quels ont été les critères pour sélectionner les personnes, quels sont les représentants des différentes régions, s'il s'agit des représentants des multiples parties prenantes, quel est l'équilibre entre les membres du panel. Il faut que nous soyons vraiment très prudents à cet égard, parce que pour la préparation de la réunion, au début de la réunion, nous avions fait une remise en question de ces critères. Et nous étions tombés d'accord pour dire qu'il devait y avoir un équilibre entre la distribution géographique, entre les gouvernements, afin que la composition de l'équipe, mis à part la question du nombre de membres du panel, pour avoir donc une composition d'une équipe qui ne soulève pas de problèmes, des questions problématiques. Voilà donc les trois réflexions qui me viennent à l'esprit. Je ne demande pas une explication complète du conseil d'administration ni de FADI, seulement une explication très brève. Et enfin, Madame la Présidente, un commentaire, pas une question. Je vois la salle qui est pleine. Il se peut que la prochaine fois, pour la réunion du conseil d'administration et du GAC, il faudra avoir un accord différent pour que les membres du GAC soient assis de façon appropriée. Je vois que certains membres du conseil d'administration sont debout, il y en a qui sont vraiment au fond. Donc il faut que tout le monde soit confortablement installé pour que cette réunion commune du GAC et du conseil d'administration soit l'occasion d'être bien assis, de pouvoir discuter de façon confortable. Ce n'est pas nécessaire de faire venir le conseil d'administration à notre salle. Pour la prochaine réunion du GAC, nous pouvons aller ailleurs pour nous réunir avec le conseil, sans problème. Voilà, merci beaucoup.
Fadi prend la parole. Merci. Mon dernier chef, Aïbem, a enlevé les chaises dans son bureau pour que les réunions durent moins longtemps. Peut-être que la présidente voulait ça. Mais parfois, c'est bien d'avoir un endroit où il y ait beaucoup de monde parce que c'est plus accueillant. Mais je voulais répondre à vos trois questions. Tout d'abord, pour que ce soit clair, vous allez avoir davantage de détails demain lorsqu'on va discuter cela avec la communauté de 7h à 8h30. Dans cette réunion qui a été décidée à la dernière minute, j'espère que le GAC sera à même d'y assister. Nous espérons que ce dialogue pourra porter des fruits. Je vais répondre à votre première question qui est liée à la déclaration de Montevideo. Dans notre communauté, il n'y a pas eu de surprise par rapport au contenu de la déclaration de Montevideo, car cette déclaration contient les mêmes choses que l'on dit depuis plusieurs années. Il n'y a rien de nouveau. La nouveauté, c'est qu'on a décidé de faire cette déclaration conjointe ensemble. Mais par rapport au contenu, ces contenus identifient des aspects que nous répétons depuis très longtemps. En ce qui concerne les panels, votre question par rapport à l'élection de ces panélistes, des membres du panel, je tiens à préciser que les quatre panels de l'ICANN et ce cinquième panel partagé par l'ICANN, l'Université de Californie du Sud et la Fondation Edinburgh et le Forum économique mondial, ce cinquième panel donc et les quatre premiers panels ne sont pas des panels qui peuvent prendre des décisions. Ces panels vont élaborer des recommandations. Ce ne sont pas des organisations qui vont créer des traités contraignants. Ils vont uniquement élaborer des recommandations qui serviront à alimenter le dialogue de la communauté. C'est comme ça qu'on doit voir cela. Nous ne sommes pas une forteresse au sein de l'ICANN. Nous sommes perméables et nous recevons des commentaires et des contributions. Comment choisit-on les panélistes? Puisque les panels ne prennent pas de décision, c'est le président de l'ICANN qui a mis en place une consultation auprès de son équipe pour s'assurer que les membres du panel possèdent l'expérience et l'expertise suffisantes pour pouvoir participer à ces panels. On a fait attention justement à respecter la distribution géographique ou l'équilibre géographique. Et ce cinquième panel qui a été annoncé hier, regroupe des gens qui ont travaillé dans le gouvernement, dans la société civile, des personnes qui viennent du domaine technique. Bref, il a fallu s'assurer que toutes les visions puissent être comprises dans ce panel. Et je veux préciser que ce cinquième panel annoncé hier n'a rien à voir avec la conférence du Brésil. La conférence qui sera tenue au Brésil pourra considérer les considérations de ce cinquième panel, tout comme elle pourra considérer les considérations des autres panels. Il s'agit tout simplement d'un autre point de contribution, comme tant d'autres qui vont alimenter cette conférence de Brésil. Votre dernière question concerne la conférence de Brésil et pour cela, je vous recommande d'attendre directement à savoir ce que dit le Brésil. L'ICANN ne va ni gérer ni annoncer ce qui se passera dans la conférence de Brésil. Plusieurs membres de la communauté feront des contributions dans cette conférence, mais les détails par rapport à cette conférence seront annoncés par le Brésil. Et nous attendons donc le Brésil pour savoir ce qu'ils vont annoncer et cette communication aura lieu bientôt. Merci. Heather prend la parole. Merci. L'Italie, s'il vous plaît. L'Italie prend la parole. Je voulais dire que dans cette déclaration de Montevideo, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a rien de nouveau dans cette déclaration. Mais il y a au moins une nouveauté, à savoir que cette déclaration a été signée par les membres de iStar. C'est-à-dire par les vedettes de l'Internet, parce que une déclaration de ce type représente le modèle de l'ICANN, représente le modèle des parties concernées dans la définition de la gouvernance de l'Internet par rapport à une solution qui pourrait contenir des aspects plus larges de la gouvernance de l'Internet. Fadi prend la parole. Merci l'Italie. Merci Stefano. Je voulais dire que lorsque nous avons fait cette déclaration de Montevideo, nous étions tout à fait conscients que l'IGF était là-bas, était tout près, et je vous ai pas répondu, Iran, par rapport à votre question par rapport à l'IGF. Et nous croyons que l'IGF est un forum excellent pour le dialogue entre les parties intéressées. Nous allons le soutenir et nous voyons avec de bons yeux le fait qu'il y ait des pays qui se soient engagés à organiser les trois prochaines réunions de l'IGF. Nous reconnaissons bien entendu la valeur de ces réunions au niveau national, au niveau régional et au niveau mondial. Nous allons toujours soutenir les IGF. Nous ne croyons pas que la conférence du Brésil va empêcher les activités de l'IGF ou de tout autre forum actif dans le domaine de la gouvernance de l'Internet. Nous croyons qu'il s'agit plutôt d'activités complémentaires qui servent à soutenir le forum multipartite. Et j'espère avoir répondu à votre question, Stefano. Cela fait partie de l'idée selon laquelle la communauté dans son ensemble puisse discuter de ces questions. Steve prend la parole. Je vais donner la parole à la Namibie parce que je pense que sa question est liée à ce point. La Namibie prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Ma question concerne notamment l'internationalisation de l'ICANN. Mon collègue de l'Iran l'a dit, cela dépend de nous en termes généraux, mais plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre. L'ICANN a indiqué au cours de la cérémonie d'ouverture, a fait mention à la présence physique et nous faisons référence à la présence commerciale. Donc nous voulions savoir comment le processus d'internationalisation est mis en place par le biais de cette présence physique dans différentes régions du monde, notamment en Afrique et dans d'autres régions. Nous voudrions donc recevoir davantage d'informations par rapport à cela. Fadi prend la parole. Merci, Namibie. Je suis contente de écouter votre commentaire et j'apprécie cette précision. Je voudrais donc faire une précision. Quand nous utilisons le nom ICANN, nous faisons référence à nous tous. Il n'y a pas de distinction entre l'ICANN et les parties prenantes. Nous sommes tous une même entité. Et ce n'est pas que les parties prenantes encouragent une activité. Quand j'ai rejoint l'ICANN, j'ai compris que vous m'aviez demandé d'arriver, de réussir à une véritable internationalisation de l'ICANN. Et quand je parle d'une véritable internationalisation, je veux dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'ouvrir des bureaux, mais plutôt d'ouvrir l'esprit de l'ICANN pour que l'ICANN puisse avoir un esprit mondial et non seulement une société qui a des bureaux partout dans le monde. C'est pour ça que notre stratégie comporte trois couches ou trois étapes. Et je vais vous expliquer ces trois étapes qui ont lieu de façon parallèle. La première couche, c'est la couche, c'est la fondation, et c'est cela consiste à décentraliser les activités de l'ICANN, non seulement donc à Los Angeles, mais plutôt dans plusieurs endroits. C'est pour ça qu'on a choisi Istanbul, Singapour et Los Angeles. Ces trois nœuds, ce sont des bureaux de participation locale aussi. Nos activités centrales ont lieu partout dans le monde, dans tous les fuseaux horaires, dans ces trois bureaux. Il y a d'autres organisations qui ont fait cela. Et comme j'ai dit qu'on allait le faire il y a un an, je tiens à vous informer que ces bureaux sont ouverts, qu'ils sont opérationnels et qu'il y a du personnel dans ces bureaux. En Asie-Pacifique, on avait une personne et maintenant on en aura 12. Nous avançons de façon très efficace pour changer la façon dont nous travaillons et dont nous menons nos opérations. Nous avons donc du personnel juridique qui travaillera partout dans le monde pour nous assurer que notre vision ne se concentre pas uniquement dans les États-Unis. Quand on parle donc de conformité, on parle de conformité au niveau mondial. Nous avons aussi les services informatiques au niveau mondial. David Olive, par exemple, est le chef des politiques de l'ICANN qui habite maintenant à Istanbul. Et nous sommes en train de sous-traiter des gens des régions qui vont travailler pour ces régions. Comme je l'ai dit auparavant, l'année prochaine, je vais déménager avec ma famille à Singapour. Et c'est ainsi que nous allons montrer au monde entier que nous sommes engagés à mettre en place une démarche globale, que nous sommes une équipe mondiale. La deuxième couche consiste à avoir des centres de participation, engagement centers, dans le monde entier. Ces bureaux sont destinés à être à l'écoute des communautés locales. On a eu donc un centre à Washington DC, à Bruxelles. On a fermé deux petits centres qu'on avait aux États-Unis et nous sommes concentrés, comme je l'ai dit avant, dans la nouvelle frontière. Et c'est pour cela qu'on a un nouveau centre de participation, ou Engagement Center, à Montevideo. Nous avons du personnel là-bas. Nous allons continuer à progresser. Et nous allons ouvrir un nouveau centre de participation, Engagement Center, à Pékin. Nous allons aussi ouvrir un autre centre à Genève. Et monsieur Tarek Kamel va déménager à Genève le mois prochain. Nous avons donc une présence auprès des missions en Suisse. Voilà la deuxième couche. La troisième couche, c'est la couche la plus récente, consiste à ouvrir des centres d'excellence en coopération avec certains pays du monde entier. Il y a un mois, j'étais à New Delhi et on a annoncé l'ouverture du premier centre d'excellence pour la sécurité du DNS. Ce centre a été ouvert en coopération avec l'institut de recherche le plus important d'Inde. Il y aura du personnel de l'ICANN et du personnel de ce centre de recherche pour prêter des services dans le monde entier. Lundi, nous avons ouvert un deuxième centre d'excellence en Corée. Nous l'avons annoncé avec l'agence coréenne KISA. Et cela sert à valoriser la localisation des langues en Corée et permet une plus grande participation de la péninsule coréenne. Cela nous sert à changer la position ou l'attitude de l'ICANN pour que l'on puisse avoir un fonctionnement mondial. Merci Namibie. Heather prend la parole. Merci Fadi pour cette réponse. Je crois qu'il y a un commentaire ou une question du Royaume-Uni et après je regarde autour de moi pour voir s'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole car on arrive à la fin de notre séance. Je vais donc devoir clore notre séance après cette intervention. Royaume-Uni prend la parole. Merci Heather. Mon commentaire concerne l'affirmation d'engagement et la mondialisation. L'affirmation d'engagement a été négociée par le gouvernement des États-Unis et l'ICANN. De façon réussie, mais cela a passé est devenu une question qui relève de la responsabilité de l'ICANN pour une révision indépendante. Fadi a fait référence à la mondialisation de cette affirmation d'engagement. Et je dois admettre qu'il est difficile pour moi de comprendre ce que l'on veut dire par là. J'aimerais donc en savoir davantage. Je voudrais aussi savoir si Fadi considère que cela peut constituer une des composantes de la nouvelle architecture dont a parlé le ministre des Affaires étrangères du Brésil comme étant l'un des résultats possibles de la conférence de Sao Paulo en avril. Merci. Fadi prend la parole. Merci, Royaume-Uni. Au cours des dernières semaines, j'ai parlé de l'affirmation d'engagement en disant que c'était un document qui constituait un accord entre nous, l'ICANN et le gouvernement des États-Unis, dans le seul but de faire en sorte que l'ICANN puisse servir à la communauté mondiale de la meilleure façon possible. L'esprit de cet accord, c'est de nous rendre responsables de notre travail auprès du monde entier. et non pas uniquement auprès d'un gouvernement en particulier. Et c'est ça que l'on doit, c'est à ça que l'on doit penser. Au fur et à mesure que l'ICANN progresse et devient et augmente l'accent mis sur l'internationalisation, je pense que nous pouvons penser que ce document ou tout autre document pourrait être un bon moyen pour nous assurer que nous tous, autour du monde, nous sommes engagés de la même façon auprès de la transparence et de l'égalité. Je ne sais pas si c'est le seul moyen, il y en a d'autres, et je pense que nos partenaires dans le gouvernement des États-Unis qui ont signé l'accord vont penser que c'est une évolution naturelle de l'ICANN et de la communauté de l'ICANN. Je pense donc, et c'est quelque chose qui doit être fait maintenant, mais on n'en a pas discuté. C'est des sujets par rapport auxquels il faut débattre, car ils font partie d'une évolution naturelle de l'ICANN pour servir la communauté mondiale. Je ne sais pas encore exactement quelle sera la portée de la conférence du Brésil. Le Brésil a demandé à la communauté de travailler là-dessus. Nous en saurons plus dans les jours qui viennent et j'encourage tout le monde à être patient et à travailler avec la communauté pour organiser tout cela. Je ne pense pas que la conférence se focalise uniquement sur les détails de comment l'ICANN sera internationalisée. Même si la conférence appelle à une internationalisation, mais j'espère que mon commentaire est utile. Et on vient de me dire que j'ai répondu à la Namibie sans avoir répondu à votre question sur l'Afrique. Je m'en excuse. Je dois vous dire que vous savez que nous avons, depuis que je suis arrivée, j'ai créé une équipe en Afrique et que je suis engagée à augmenter notre présence en Afrique. C'est une question logistique pour le moment. Comme vous le dites, je ne suis pas patient et si vous me demandez, je vous dirai qu'il y a encore un grand travail à faire et que nous allons le faire. Et que nous sommes en train de courir contre la montre pour cela. Mais notre engagement est là. Et en plus, je suis née dans ce continent. C'est pourquoi je suis personnellement engagée à le faire. Ma première action en tant que PDG a été de créer cette équipe africaine. Et nous allons toujours continuer à nous focaliser sur l'Afrique. Il nous faut vraiment avoir une présence dans toute l'Afrique. Cette présence comporte la participation des gens parce qu'on a encore un grand travail à faire avec l'Afrique. Riedel prend la parole. Merci beaucoup. Je pense donc que nous allons remercier les membres du conseil d'administration de cet échange qui a été extrêmement utile. Plusieurs sujets ont été abordés. Il y a certains points concernant les GTLD par rapport auxquels le GAC continue à analyser, continue à poursuivre ces débats. Steve Crocker prend la parole. Heather m'a demandé si je voulais ajouter quelque chose. Et j'ai pensé à une chose. Dans le passé, on a beaucoup parlé du fait de savoir si nous répondions correctement à l'avis du GAC, le processus lié au communiqué du GAC, etc. Je voudrais savoir quel est votre sentiment par rapport à cela, pour savoir si les choses fonctionnent bien ou s'il nous faut encore travailler davantage. Est-ce que tout fonctionne correctement? Parce que je n'ai rien entendu parler par rapport à cela, ce que je suppose est quelque chose de positif. Mais je voulais savoir quel est votre sentiment. Heather prend la parole. Oui, nous avons parlé des recommandations de l'équipe de la TRT2 ainsi que de la mise en œuvre de la TRT1, de l'équipe, des recommandations de l'équipe à TRT1. Et en ce qui concerne le registre des décisions du GAC, cela est mis en place, en mise en œuvre. Il y a probablement des améliorations à incorporer. Mais c'est probablement nous qui devons aussi penser au processus autour de cela. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce que je vois et à ce que j'utilise, faire référence à ce registre pour que cela fonctionne. Steve prend la parole. Je veux que vous sachiez que nous n'avons pas oublié cet aspect. Si vous avez besoin de quelque chose pour que cela fonctionne correctement, vous savez, qu'il faut qu'on puisse atteindre les objectifs et les améliorations et les commentaires font partie du processus. Heather prend la parole. Merci. Ce que les collègues ne savent pas, c'est que Steve a accordé une grande priorité au registre pour s'assurer que cela fonctionne correctement. Il travaille étroitement avec nous pour que cela fonctionne et nous en sommes reconnaissants. J'en suis reconnaissante. Beaucoup de travail donc qui nous attend. Je remercie tout le monde. Je vous souhaite bonne soirée et le GAC se réunit à 9h demain. Et si vous avez des documents ou des textes par rapport à des points que vous voulez aborder demain, je vous demande de me les faire parvenir aujourd'hui pour que l'on puisse avoir le temps d'en débattre. Je vais donc clore cette séance. Merci beaucoup à tous.
The working group will meet.
Le groupe de travail va se réunir dans cette même salle à 6h30. Le groupe de travail se réunit dans cette même salle à 6h30 jusqu'à 8h30. Les membres du GAC qui vont travailler sur point vin et point wine vont se réunir dans cette même salle à 6h30.